Anatole France, Les désirs de Jean Servien. Jean Servien naquit dans une arrière-boutique de la rue Notre-Dame-des-Champs. Son père était relieur et travaillait pour les couvents. Jean fut un petit enfant chétif que sa mère nourrissait tout en cousant les livres feuille à feuille avec l'aiguille courbe. Un jour qu'elle traversait la boutique en chantonnant une romance dont les paroles exprimaient pour elle la splendeur confuse des ambitions maternelles, le pied lui glissa sur le carreau humide de colle. Elle leva instinctivement le bras pour protéger l'enfant qu'elle tenait contre son sein, et de sa poitrine découverte heurta rudement l'angle de fonte de la presse. Elle ne sentit pas d'abord une très vive douleur, mais il lui vint au sein un abcès qui se ferma et se rouvrit, puis une fièvre hectique qui l'étendit au lit. Là, pendant les heures infinies du soir, de son seul bras libre, elle entourait son petit enfant, lui murmurant d'un souffle embrasé quelques lambeaux de sa chère romance. Comme un pêcheur, quand l'aube est près d'éclore, vient épier le réveil de l'aurore, elle aimait surtout le refrain régulier et changeant dont elle berçait son Jean, qui devenait tour à tour, au gré de la chanson, général, avocat et lévite en espérance. En femme du peuple qui ne connaissait les hautes fonctions sociales que par quelques éclats de leur pompe extérieure et par les révélations informes des portiers, des valets et des cuisinières, elle rêvait son fils à 20 ans, plus beau qu'un archange et couvert de décorations, dans un salon plein de fleurs, au milieu de femmes du monde ayant toutes d'aussi bonnes manières que les actrices du gymnase. En attendant, sur mes genoux, beau cavalier, endormez-vous. Puis elle contemplait ce même fils, debout cette fois dans le prétoire, l'hermine à l'épaule, sauvant par son éloquence la vie et l'honneur de quelque illustre client. En attendant, sur mes genoux, bel avocat, endormez-vous. Elle le voyait ensuite en brillant uniforme, dans la mitraille, sur un cheval cabré, remportant une victoire comme ceux dont elle avait vu les portraits un dimanche à Versailles. En attendant, sur mes genoux, beau général, endormez-vous. Mais quand la nuit envahissait la chambre, une nouvelle image étalait à ses yeux d'incomparable splendeur. Dans sa maternité à la fois orgueilleuse et humble, elle contemplait du fond obscur d'un sanctuaire son fils, son Jean, revêtu d'ornements sacerdotaux, élevant le ciboire dans la nef parfumée par les battements d'ailes des chérubins demi-visibles. Et elle frémissait comme la mère d'un dieu, cette pauvre ouvrière malade dont l'enfant chétif languissait près d'elle, dans le mauvais air d'une arrière-boutique. En attendant, sur mes genoux, mon beau lévite, endormez-vous. Un soir, comme son mari lui tendait une potion, elle lui dit, avec un accent de regret, « Et pourquoi m'as-tu appelé? Je voyais la Sainte Vierge dans des fleurs, des pierreries, des lumières, c'était si beau !» Mais elle ajouta qu'elle ne souffrait plus, qu'elle voulait que son Jean apprît le latin, et elle mourut. Le veuf, qui était beauceron, envoya son fils dans le département d'Eure-et-Loire, au village chez ses parents. Quant à lui, robuste et résigné, économe par instinct comme un patron et comme un père, il ne quittait le tablier de serge verte que pour aller le dimanche au cimetière. Il pendait une couronne au bras de la croix noire, et, s'il faisait chaud, s'asseyait au retour sur le boulevard contre la grille d'un marchand de vin. Là, en vidant lentement son verre, il regardait passer les mères et les petits-enfants. Ces jeunes femmes qu'il voyait venir et s'éloigner lui étaient de rapides images de sa Clotilde, et lui inspirait de la mélancolie sans qu'il s'en rendît compte, car il n'était pas habitué à réfléchir. Le temps coula. Peu à peu, le souvenir de la morte prit dans la mémoire du relieur un caractère de douceur et de vague. Une nuit, il essaya, sans y réussir, de se représenter la figure de Clotilde. Alors il se dit qu'il pourrait peut-être retrouver les traits de la mère sur le visage de l'enfant, et il lui vint un grand désir de revoir et de reprendre ce reste de celle qui n'était plus. Le matin, il écrivit à sa vieille sœur, la Servien, une lettre pour la prier de venir s'installer avec le petit dans la rue Notre-Dame-des-Champs. La Servien, qui avait vécu longtemps à Paris, à la charge de son frère, car elle était paresseuse avec délices, consentit à revenir vivre dans une ville où, disait-elle, les gens sont libres et ne dépendent point de leurs voisins. Un soir d'automne, elle fit son entrée par la gare de l'Ouest, avec son Jean et ses paniers, droite, sèche, l'œil enflammé, prête à défendre le petit contre des périls imaginaires. Le relieur embrassa l'enfant et dit « C'est bon !» Puis il le remit à Califourchon sur ses épaules et lui recommandant de se bien tenir aux cheveux de son père, il l'emporta fièrement à la maison. Jean avait 7 ans. Des habitudes furent bientôt prises. À midi, la vieille fille mettait son châle et s'en allait avec l'enfant du côté de Grenelle. Ils suivaient tous deux les larges allées bordées de murs écaillés, de cabarets peints en rouge. Le plus souvent, un ciel gris pommelé comme les percherons qui passaient recouvrait avec une douce tristesse le faubourg tranquille. Elle s'asseyait sur un banc, et pendant que le petit jouait au pied d'un arbre, elle tricotait un bas et conversait avec un invalide à qui elle confiait qu'il était dur de vivre chez les autres. Un jour, un des derniers beaux jours de l'automne, Jean, accroupi à terre, piquait dans le sable humide et fin des écorces de platane. Cette puissance d'illusion qui fait vivre les enfants dans un miracle perpétuel changeait pour lui une poignée de terre et de bois en de merveilleuses galeries, en des châteaux féeriques. Il en battit des mains, il en bondit de joie. Alors il se sentit pris dans quelque chose de doux et de parfumé. C'était la robe d'une dame qui passait, et dont il ne vit rien sinon qu'elle souriait en l'écartant doucement. Il alla dire à sa tante « Comme elle sent bon, la dame !» La Servia murmura que les grandes dames ne valaient pas mieux que les autres, et qu'elle s'estimait plus avec sa jupe de mérinos que toutes ses mijaurées en falbala. Et elle ajouta « Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée !» Mais Jean ne comprenait pas ce langage. Cette soie parfumée qui avait effleuré sa joue lui laissa le souvenir doux et vague d'une caresse dans une apparition. Un soir d'été, comme le relieur prenait le frais devant sa porte, un gros homme au nez rouge, assez vieux et qui portait un gilet écarlate taché de graisse, le salua avec politesse et mystère et lui dit d'une voix chantante à laquelle l'artisan lui-même reconnut un accent italien « Monsieur, j'ai traduit la Jérusalem Liberata, le chef-d'œuvre immortel de Torquato Casso. » Et il avait en effet un gros cahier de papier sous le bras. « Oui, monsieur, j'ai consacré mes veilles à cette tâche glorieuse et ingrate. Sans famille, sans patrie, j'ai écrit ma traduction dans des soupentes obscures et glacées. » Sur du papier à chandelle, sur des cartes à jouer, sur des cornets à tabac. Voilà quelle a été la tâche du proscrit. Vous, monsieur, vous vivez dans votre pays, au sein d'une famille florissante, du moins je le souhaite. » À ces mots qui le frappaient par leur ampleur et leur étrangeté, le relieur songea à la morte qu'il avait aimée, et il la revit roulant ses beaux cheveux comme au premier matin. Le gros homme poursuivit. « Je dis, l'homme est une plante que les orages tuent en le déracinant. Voici votre fils, n'est-il pas vrai? Oh, il vous ressemble. » Et posant la main sur la tête de Jean, qui, pendu à la veste de son père, s'étonnait de ce gilet rouge et de ce parler chantant, il demanda si l'enfant prenait bien ses leçons, s'il devenait un savant, s'il n'étudierait pas bientôt la langue latine. « Cette noble langue, ajouta-t-il, dont les monuments inimitables m'ont fait si souvent oublier mes infortunes. » « Oui, monsieur, j'ai souvent déjeuné d'une page de Tacite et soupé d'une satire de Juvénal. » À ces mots, il imprima subitement la tristesse sur sa face enluminée et, baissant la voix, « Pardonnez-moi, monsieur, si je vous tends le casque de Bélisaire. Je suis le marquis Tudesco de Venise. Quand j'aurai reçu du libraire le prix de mon labeur, je n'oublierai pas que vous m'aurez assisté d'une pièce de monnaie dans mes plus dures épreuves. » Le relieur, fort endurci contre tous les mendiants qui les soirs d'hiver entraient avec la bise dans sa boutique, éprouvait au contraire une sorte de sympathie et de respect pour le marquis Tudesco. Il lui glissa une pièce de 20 sous dans la main. Alors le vieillard, dans un air inspiré, « Y'a, dit-il, une nation malheureuse, l'Italie, une nation généreuse, la France, et c'est un lien qui les unit, l'humanité. Quelle vertu, l'humanité, l'humanité !» Cependant, le relieur songeait aux dernières paroles de sa femme, « Je veux que mon Jean apprenne le latin. » Il hésita, puis, voyant M. Tudesco saluer en souriant pour partir, « Monsieur, lui dit-il, si vous vouliez donner 2 ou 3 fois par semaine des leçons de français et de latin à cet enfant, nous pourrions nous entendre. » Le marquis Tudesco ne parut point surpris. Il sourit et dit, « Certes, monsieur, puisqu'il vous est agréable, je me ferai une grande joie d'initier votre fils au mystère du rudiment latin. Nous ferons de lui un homme et un citoyen, et Dieu sait jusqu'où ira mon élève, en ce beau pays de liberté et d'humanité. Il peut devenir ambassadeur, mon cher monsieur. Je dis, savoir, c'est pouvoir. » « Vous reconnaîtrez la boutique, dit le relieur. Il y a mon nom sur l'enseigne. » Le marquis Tudesco, ayant caressé l'oreille du fils et salué le père avec une familiarité noble, s'éloigna d'un pas encore léger. Le marquis Tudesco revint, sourit à la servien qui lui lançait des regards empoisonnés, salua le relieur de l'air d'un protecteur discret et fit acheter des grammaires. Il donna d'abord ses leçons assez régulièrement. Il s'était pris de goût pour ses récitations de noms et de verbes qu'il écoutait d'un air vénérable et propice, en déployant lentement son cornet de tabac et qu'il entrecoupait de réflexions badines dont la bonhomie, relevée d'une pointe de férocité, trahissait son génie de sacripant bon apôtre. Il était facétieux et grave, et feignait longtemps de ne pas voir sur la table le verre rempli de vin à son intention. Le relieur, le considérant comme un homme incapable mais désordonné, le traitait avec beaucoup d'égard, car les vices de conduite ne nous choquent guère que chez les voisins, ou tout au plus chez les compatriotes. Jean s'amusait à son insu des malices et de l'éloquence de ce vieillard, qui réunissait en lui le prélat et le bouffon. Les récits de ce rare conteur passaient l'intelligence de l'enfant, mais non sans y laisser certaines impressions confuses d'audace, d'ironie et de cynisme. Seul la servien gardait à cet homme une haine et un mépris entiers. Elle ne s'expliquait point sur lui, mais elle opposait un visage rigide à longue peau et 2 yeux de flamme aux salutations courtoises que le professeur ne manquait jamais de lui faire, avec un tour particulier de ses petites prunelles grises. Un jour, le marquis Tudesco entra dans la boutique en titubant. Ses yeux qui pétillaient et sa bouche arrondie par une disposition à l'éloquence et à la volupté, son nez capable, ses joues roses de beau vieillard, ses mains grasses, entr'ouvertes et son gros ventre lestement porté, lui donnaient, sous le veston et le feutre, une parfaite ressemblance avec un petit dieu agreste de ses ancêtres, le vieux Silène. La leçon fut ce soir-là vague et capricieuse. Jean récitait d'un ton monotone « Moneo, mones, monette, monebam, monebas, monebat. » Tout à coup, M. Tudesco se poussa en avant, fit horriblement grincer sa chaise et, posant le bras sur l'épaule de son élève, lui dit « Jeune enfant, je vais te donner aujourd'hui une leçon plus profitable que tout le misérable enseignement dans lequel je me suis enfermé jusqu'à présent. C'est une leçon de philosophie transcendante. Écoute-moi bien, jeune enfant. Si tu t'élèves un jour au-dessus de ta condition, et si tu parviens à prendre connaissance de toi-même et du monde, tu reconnaîtras que les hommes n'agissent que par égard à l'opinion de leurs semblables, en quoi ils sont perbacco, de bien grands insensés. Ils craignent qu'on les blâme et souhaitent qu'on les loue. Ils ne savent donc pas les sots. Que le monde ne se soucie pas plus d'eux que d'une noisette et que leurs plus chers amis les verront glorifiés ou déshonorés sans perdre une bouchée de leur festin. Apprends de moi, caro figliolo, que l'opinion vaut pas le sacrifice d'un seul de nos désirs. Si tu mets cela dans la tête, tu seras un homme fort et tu pourras te vanter d'être l'élève du Marquis Tudesco de Venise, le proscrit qui a traduit dans une soupente glacée sur du papier à chandelle, le poème immortel de Torquato Tasso. Quel labeur ! L'enfant écoutait, sans le comprendre, ce bavardage d'ivrogne philosophe. Mais M. Tudesco lui faisait l'effet d'un homme singulier, effrayant, et plus grand de 100 pieds que tous ceux qu'il avait encore vus. Le professeur s'échauffait. « Hé ! » s'écria-t-il en se levant. Quel prix l'immortel et infortuné Torquato Tasso remporta-t-il de tout son génie? Quelques baisers furtifs sur les marches d'un palais, et il mourut de faim dans un infâme hôpital. Je dis, l'opinion, cette reine du monde, mais je lui arracherai sa couronne et son sceptre. L'opinion, elle règne sur la pauvre Italie comme sur le reste du monde. Ah, l'Italie! Quelle fulgurante épée viendra donc un jour briser ses fers, comme je brise cette chaise ? Et en effet, il avait saisi sa chaise par le dossier, et il la frappait rudement contre le plancher. Mais il s'arrêta tout à coup, sourit finement et dit à mi-voix, « Non, non, Marquis Tudesco, laissez cette pauvre Venise emploie la barbarie tudesque. Les fers de la patrie, c'est le gagne-pain du proscrit. » Le menton dans sa cravate, il riait en lui-même et son gilet se soulevait par saccades. La Servien, qui assistait à la leçon en tricotant un bas et qui, depuis quelques instants, ses lunettes relevées au milieu du front, observait le professeur d'un air stupéfait et défiant, s'écria, comme en elle-même, « Si c'est pas abominable de venir chez les gens quand on est ivre !» M. Tudesco ne sembla pas l'entendre. Il était redevenu calme et facétieux. « Jeune enfant, dit-il, écrivez la matière d'un thème, écrivez. La pire des choses est une femme vieille et méchante. » Et, se levant, il salua la Servien avec la grâce noble d'un prélat, donna une tape amicale sur la joue de l'enfant, puis sortit. Mais, à compter de la leçon suivante, il étala tous ses respects, toutes ses grâces devant la vieille femme. Il arrondissait les coudes, mettait sa bouche en cœur, faisait la roue. Elle ne se rendait pas et gardait une immobilité haineuse de vieille chouette. Mais un jour qu'elle cherchait ses lunettes, ce qui était son occupation ordinaire, M. Tudesco lui offrit les siennes et l'obligea à les essayer. Elle les trouva à sa vue et en éprouva pour lui un peu de sympathie. L'Italien, profitant de cet avantage, entra en conversation et dit habilement du mal des riches. La bonne femme l'approuva. Il s'ensuivit un petit commerce de menus propos. Tudesco avait des remèdes contre la pituite. Cela aussi fut bien reçu. Il redoubla de câlinerie et la concierge, qui le voyait sourire sur le pas de la porte, dit à la tante Servien « C'est votre amoureux ?» La tante avait beau dire qu'à son âge, on n'avait pas besoin d'amoureux, mais elle était flattée. M. Tudesco y gagna ce qu'il voulait, c'est-à-dire d'avoir à chaque leçon son verre rempli jusqu'au bord. On lui laissait même par politesse le litre quand il n'était qu'à moitié plein. Mais il avait le tort de le vider. Il demanda un jour du fromage. « Ce qu'il en faut, dit-il, pour le repas d'une souris. Les souris aiment comme moi l'ombre, le silence, les livres. Elles vivent de miettes comme moi. » Ses façons de sage indigent firent un mauvais effet. La tante redevint muette et sombre. M. Tudesco disparut au printemps. Le relieur, bien qu'il gagnât peu, se résolut à faire entrer son Jean dans une pension où l'enfant put recevoir un enseignement régulier et complet. Il choisit un externat voisin du Luxembourg parce qu'il vit la tête d'un acacia sur le mur et que la maison lui sembla gaie. Jean, nouveau et petit, il avait alors 11 ans, garda cependant quelques semaines la stupeur dont l'accablait la brutalité joyeuse des écoliers et l'épaisse gravité des maîtres. Peu à peu, il s'accoutuma à sa tâche, s'appropria quelques-unes des ruses par lesquelles on évite les punitions, inspira à ses camarades assez d'indifférence pour qu'ils ne lui volassent plus sa casquette, et apprit à jouer aux billes. Mais il n'aimait guère la pension, et à 5 heures du soir, quand la prière était dite et la gibecière bouclée, il se jetait d'un élan joyeux dans la rue, toute dorée par le soleil couchant. Dans l'ivresse de la liberté, il faisait de grands bonds, voyait tout, gens et bêtes, voitures et boutiques, sous un charme, et il en mordait de plaisir le bras, la main de la serviante qui l'accompagnait en portant la gibecière et le panier. Les soirées étaient paisibles. Jean faisait des bons hommes et rêvait sur ses cahiers à un bout de la table que la servia achevait de desservir. Le père lisait. En vieillissant, il avait pris goût aux livres. Il lisait « Les fables de La Fontaine »,« L'histoire de France d'Anquetilet » et le dictionnaire philosophique de Voltaire « Pour se rendre compte », disait-il. Sa sœur tentait vainement de l'interrompre par quelques aigres observations sur les voisins ou sur le gros homme qui n'était pas revenu, car elle s'était obstinée à ne point retenir le nom du marquis Tudesco. Jean fut bientôt occupé tout entier par le catéchisme, les sermons, les cantiques qui précèdent la première communion. Enivré de chants d'orgue, parfumé d'encens et de fleurs, chargé de scapulaires, de chapelets, de médailles et d'images, il prit, comme ses camarades, un air important et un ton de retenue. Il se montrait dur et froid envers sa tante, qui ne parlait pas avec assez d'exaltation du grand jour. Bien qu'il eût mené longtemps son neveu chaque dimanche à la messe, elle n'était pas dévote. Probablement, elle confondait dans une commune haine le luxe des riches et les pompes du culte. On avait plus d'une fois entendu sur les bancs des boulevards déclarer à quelque invalide qu'elle avait de la religion, mais qu'elle n'aimait pas les prêtres. qu'elle priait Dieu chez elle, et que ses prières valaient bien celles qu'on faisait dans les églises en étalant des crinolines. Le père s'associait mieux à la nouvelle humeur de l'enfant. Il se sentait intéressé et presque ému. Il tenait à relier lui-même un livre de messe pour la cérémonie. Quand vinrent les jours de retraite et de confession générale, Jean s'enfla d'un vague orgueil. Il attendait quelque chose d'extraordinaire. Le soir, en sortant de Saint-Sulpice avec deux ou trois de ses camarades, il se sentait enveloppé d'une atmosphère de miracle. Il lui semblait nécessaire que quelque chose de divin s'accomplît. Ses enfants se racontaient des histoires étranges et pieuses qu'ils avaient lues dans quelques petits livres d'édification. C'était l'apparition d'un moine sorti de la tombe avec les pieds et les mains percés, le côté ouvert, ou quelques religieuses, belles comme les figures voilées des tableaux d'église, expiant dans le feu de l'enfer des péchés mystérieux. Jean avait son histoire préférée. Il contait en frissonnant que saint François de Borgia, après la mort de la reine Isabelle, qui était d'une beauté magnifique, dut faire ouvrir le cercueil où elle reposait dans sa robe brodée de perles. Et son imagination refaisait cette morte royale, la revêtait de toutes les magies de l'inconnu et épiait sur elle les enchantements de la beauté dans les abîmes de la mort. Et tout en parlant, il entendait par le crépuscule passer les soupirs dans les platanes du Luxembourg. Le grand jour vint. Le relieur qui assistait à la cérémonie avec la Servien songea à sa femme et pleura. Il approuva entièrement l'exhortation du curé dans laquelle le jeune homme sans foi était comparé au coursier sans frein qui vole au précipice. Cette comparaison le frappa, et il lui arriva longtemps après de la citer avec complaisance. Il résolut de lire la Bible comme il avait lu Voltaire pour se rendre compte. Jean quitta la nappe de lin, surpris d'être le même et déjà déçu. Il ne devait plus jamais ressentir la ferveur première. Les vacances approchaient. Par un midi brûlant, Jean était assis à l'ombre sur le parapet qui bordait la cour du côté du jardin du maître. Il jouait mollement à la marelle phénicienne avec un camarade, joli comme une fille, sous ses cheveux bouclés et dans sa veste de courtil écrue. « Iwans, lui dit Jean en poussant un petit caillou le long d'une des lignes tracées au fusain sur la margelle de pierre, « Evans, tu dois bien t'ennuyer d'être pensionnaire. »« Maman ne peut pas me garder chez elle, » répondit Evans. Servien demanda pourquoi. « Parce que, » répondit Evans. Il regarda longtemps le caillou blanc qui lui servait à jouer, puis il ajouta. « Maman voyage avec ton père. » Il est en Amérique, je ne l'ai jamais vu. Allez, t'as perdu, recommençons. Servien, qui s'intéressait à Madame Evans à cause des magnifiques boîtes de bonbons qu'elle apportait à son enfant, fit cette question. Tu l'aimes bien, ta mère? L'autre répondit, pardi. Puis il ajouta, il faudra que tu viennes me voir un jour pendant les vacances chez maman. Tu verras, c'est très joli chez nous. Il y a des canapés, des coussins à n'en pas finir. Mais il ne faudra pas tarder, parce que nous irons bientôt à la mer. Un maigre domestique parut dans la cour et jeta au milieu des cris aigus des écoliers un appel que n'entendirent pas les deux joueurs de marelle. Un gros garçon, qui se tenait par punition seul contre le mur, avec la tranquillité de l'habitude, souffla dans ses deux mains, ajustées en cornet. « Ivans, on te demande au parloir !» Le surveillant s'approcha. Monsieur Garderet, dit-il, vous ferez ce soir une demi-heure de piquet pour avoir rompu le silence qui vous était ordonné. Monsieur Ivans, allez au parloir. Ivans battit des mains, sauta de joie et dit à son ami, « Oh, c'est maman, oh, je lui dirai que tu viendras à la maison. » Servien, rougissant de plaisir, balbutia qu'il demanderait la permission à son père. Mais Ivans avait déjà traversé la cour en laissant derrière lui un sillage de poussière. La permission fut aisément donnée par M. Servien, bien persuadé que tous les enfants admis dans un pensionnat si coûteux étaient issus de parents bien situés dans le monde et dont la fréquentation ne pouvait être qu'avantageuse aux manières présentes et à l'établissement futur de son fils. Les renseignements que Jean lui donna sur Madame Ivans devait paraître excessivement vague, mais le relieur était accoutumé à ce que les mœurs des gens riches fussent enveloppées pour lui d'un impénétrable mystère. La tante Servien fit à ce sujet quelques observations très générales touchant les gens qui vont en voiture. Puis elle se rappela l'histoire d'une grande dame qui, comme Madame Ivans, avait mis son fils en pension et qui de plus fut compromise dans une affaire de pot de vin sous Louis-Philippe. Elle ajouta, en manière de conclusion, que l'habit ne fait pas le moine, et qu'elle se croyait bien qu'elle ne porterait pas de chapeau, elle se croyait bien plus honnête que les femmes de la haute, toutes des sucrées, et elle plaça son proverbe préféré, « Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée ». Jean n'avait jamais vu le ceinture dorée, mais l'image dans son vague lui souriait. Les vacances étant venues, la tante, un jeudi après le déjeuner, tira de l'armoire un gilet blanc. Jean, tout endimanché, monta sur un omnibus qui le conduisit à la rue de Rivoli. Il monta à 4 étages d'un escalier dont le tapis, fixé au degré par des triangles de pierre, de cuivre, lui parut surprenant. Les notes d'un piano arrivaient sur le palier. Il sonna, rougit et regretta d'avoir sonné. Il eût voulu s'enfuir. Une femme de chambre ouvrit la porte. Edgar Ivans était derrière elle dans un de ses costumes de toile crus qu'il portait si aisément. « Viens !» lui dit-il. Et il l'entraîna dans un salon dont les rideaux mi-clos laissaient passer des flèches de lumière qui se brisaient en éclats sur des glaces et des appliques dorées. Une odeur irritante et douce traînait dans cette pièce, étouffée par l'abondance des sièges capitonnés et l'amas des coussins. Jean aperçut dans cette ombre une dame trop différente de celle qu'il avait remarquée jusque-là pour pouvoir se faire une idée de sa nature, de sa beauté, de son âge. Il n'avait jamais vu Dieu d'un éclat si vif sur une peau si mate, ni de lèvres si rouges, souriant avec une telle expression d'habitude et presque de fatigue. Elle était assise devant son piano dont elle agaçait lentement les touches, sans former aucune phrase mélodique, et Jean voyait surtout d'elle une chevelure dont l'arrangement le frappait comme quelque chose de mystérieux et de beau. Elle tourna la tête vers lui et, caressant d'une main la blonde de son peignoir, « Ah, vous êtes l'ami d'Edgar, dit-elle d'un ton cordial, mais d'une voix qui sembla rude à l'enfant, dans ce salon parfumé comme une chapelle. « Oui, madame. Vous plaisez-vous à la pension ?»« Oui, madame. Les maîtres ne sont pas trop sévères ?»« Oh non, madame. Vous n'avez plus votre mère ?» À cette question, la voix de Madame Ivans s'était adoucie. « Non, madame. Et que fait votre père ?» « Il est relieur, madame. » Et le fils du relieur rougit en faisant cette réponse. En cette seconde, il eut bien consenti à ne jamais revoir son père, qu'il aimait. S'il eût pu, à ce prix, passer pour le fils d'un capitaine de frégate ou d'un secrétaire d'ambassade. Il songea tout à coup qu'un de ses condisciples était fils d'un médecin célèbre et que le portrait de ce médecin était exposé dans les vitrines des papetiers. Mais c'était à un père comme celui-là qu'il fallait annoncer à mon ami Evans. Et par quelle injustice ne le pouvait-il pas? Il était honteux, comme s'il avait dit une inconvenance. Mais la mère de son ami l'avait écouté avec une indifférence parfaite. Elle continuait à promener ses doigts au hasard sur le clavier. Puis, « Il faut bien vous amuser aujourd'hui, mes enfants. Nous irons nous promener. » « Voulez-vous que je vous mène à la fête de Saint-Cloud ?» Edgar fut d'avis qu'on y alla à cause des chevaux de bois. Madame Yvonne se leva, ajusta par un joli geste ses cheveux cendrés et donna en passant un regard oblique à la glace. « Je vais m'habiller, dit-elle, ce sera pas long. » Pendant qu'elle s'habillait, son fils, assis au piano, cherchait à se rappeler un air d'opéra bouffe. Et Jean, mal à l'aise sur le bord de sa chaise, contemplait dans le salon des choses étranges et somptueuses qui lui semblaient tenir mystérieusement la personne de Madame Evans et qui le troublaient presque autant qu'elle-même l'avait troublé. Enveloppée d'une odeur légère et d'un frisson de soie, elle reparut en ajustant les brides du chapeau qui lui faisait un léger diadème. Elle souriait. Edgar la regarda. « Maman, il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, qui te change. » Elle contempla dans la glace sa chevelure, dont la couleur blonde avait les reflets d'un violet pâle. « Non, il n'y a rien, dit-elle. Seulement, j'ai mis de la poudre dans mes cheveux. » Et elle ajouta, « Comme l'impératrice. » Et elle sourit encore. Elle mettait ses gants. On sonna. La femme de chambre vint dire à sa maîtresse que M. Delbecq attendait. Madame Evans fit la moue et dit qu'elle ne pouvait recevoir. La femme de chambre fit tout bas quelques observations très sèches. Madame Evans haussa les épaules. Vous restez là, dit-elle aux enfants, et elle passa dans la salle à manger, d'où s'éleva bientôt le murmure de deux voix. Jean demanda tout bas à Edgar « Qui était ce monsieur ?»« Monsieur Delbecq, répondit Edgar. « Oh, il a des chevaux et une voiture. Il vend des cochons. Un jour, il nous a menés au théâtre, maman et moi. » Jean était surpris et un peu choqué de ce que M. Delbecq vendit des cochons. Mais il n'en dit rien et demanda si c'était un parent. « Non, non, dit Edgar, c'est un de nos amis. Il y a longtemps, au moins un an que nous le connaissons. » Jean, revenant à son idée, fit cette question. « Est-ce que tu l'as vu vendre ses cochons ?» « Que tu es bête !» répondit Edgar. « Il les vend en gros. Maman dit que c'est un fameux métier. Il a un porte-cigare avec un bout d'ambre et une femme toute nue sculptée en écume de mer. Imagine-toi que l'autre jour, il est venu conter à maman que sa femme lui faisait des scènes abominables. » Mais Madame Evans se passa la tête par la porte entrouverte. « Allons, dit-elle, allons !» Et ils allèrent. À peine dans la rue, un homme qui fumait salua familièrement la jeune femme d'un geste de sa main gantée. Elle murmura entre ses dents, « Mais nous n'en aurons jamais fini !» L'homme dit en grasseyant, « Cher ami, j'allais chez vous vous offrir une boîte de cigarettes du Levant, mais je vois que vous promenez une pension, ma parole d'honneur, une pension. » Vous prenez des élèves, tous mes compliments. Faites-en des hommes, cher ami, faites-en des hommes. Madame Evans, le sourcil froncé, les lèvres pincées, répondit « Je suis avec mon fils et un ami de mon fils. » Le monsieur considéra au hasard un des enfants qui se trouva être Jean Servien. « très bien, dit-il, ce garçon est votre fils. »« Ah non, par exemple, s'écria-t-elle avec vivacité. » Jean se sentit comme renié, et pendant que, d'un beau geste, elle posait la main sur l'épaule de son fils, il remarquait la tenue aisée et le costume élégant de son camarade, et il regardait avec dégoût sa propre jaquette taillée par la Servien dans une redingote du relieur. « Aura-t-on l'honneur de vous voir ce soir au bouffe ?» demanda le monsieur. « Non, » répondit Madame Evans, et du bout de son ombrelle, elle poussa les enfants en avant. Ils vont, tous trois, légers, sous les marronniers des Tuileries, traversent le pont, descendent sur la berge, enjambent la passerelle brûlante, puis le ponton d'embarquement. Ils sont à bord du bateau à vapeur qui exhale au soleil une robuste odeur de goudron. Les longs parapets gris passent, puis les berges boisées. Saint-Cloud. Dès que les amarres sont jetées, Madame Evans sauta sur le pont du débarcadère. Elle va droit au bruit des clarinettes et des grosses caisses avec ses petits compagnons qu'elle guide du bout de son ombrelle. Ce fut une grande surprise pour Jean quand Madame Evans lui fit essayer sa chance à la loterie. Il s'était déjà promené avec la Servien dans les foires de banlieue, mais sa tante l'y avait détourné si énergiquement de toute dépense qu'il croyait les tourniquets et les tirs réservés à une classe de personnes dont il n'était pas. Madame Evans prit un grand intérêt au jeu de son fils, à qui il recommanda de pousser fortement la manivelle. Elle avait sur la chance les idées les plus superstitieuses. Elle appelait les grelots. Elle battait les mains quand Edgar gagnait un coquetier. Les coups malheureux la désolaient, soit qu'elle fût aveuglément cupide pour le bien de son fils, soit plutôt qu'elle vit dans cette malchance un présage. Après deux ou trois tours de perte, elle écarta son fils, fit tourner le disque de bois si brusquement que son fait de porcelaine et de verrerie en tinta, et elle joua pour son propre compte une fois, deux fois, 20 fois, 30 fois, avec fureur. Et ce fut ensuite toute une affaire de changer les petits lots contre un gros, suivant l'usage. Elle se décida pour un service à bière, dont elle donna les pièces à porter aux deux amis. Ce n'était qu'un commencement. Elle retint les enfants à chaque boutique. Elle leur fit tirer des macarons au jeu de la rouge et de la noire. Elle leur fit éprouver leur adresse dans tous les tirs avec des arbalètes chargées de petits cylindres de terre glaise, avec des pistolets et des carabines à capsules et balles de plomb, à toutes les distances, sur toutes les cibles, contre des figurines de plâtre, des pipes tournantes, des poupées et contre l'œuf dansant à la cime d'un jet d'eau. Jean Servien n'avait jamais fait un tel exercice, ni usé si vite de tant de choses diverses. Les yeux criblés de formes brutales et de couleurs criardes, la gorge brûlée de poussière, coudoyée, pressée, poussée, bousculée par la foule, il était ivre de cette débauche de jeu. Il voyait Madame Evans ouvrir sans cesse son petit porte-monnaie en cuir de Russie, et une puissance nouvelle lui était renouvelée, révélée. Ce n'était pas tout encore. Il fallut faire tourner la toupie hollandaise, monter sur les chevaux de bois, rouler du haut des montagnes russes et tourner dans des gondoles vénitiennes, se faire peser dans la balance, toucher le bras de la femme torpille. Mais Madame Evans revenait sans cesse devant la maringotte d'une somnambule translucide de Paris, muni d'un certificat signé par le ministre de l'Agriculture et du Commerce et par trois médecins de la faculté. Elle regardait avec envie les bonnes monter en rougissant dans la voiture meublée d'un lit et de deux chaises, mais elle n'osait pas monter comme elle. Elle se rappelait qu'une somnambule avait aidé une de ses amies à retrouver des couverts volés. Elle avait même consulté une tireuse de cartes peu de temps avant la naissance d'Edgar, et celle-ci lui avait annoncé un garçon. Ils étaient là, tous les trois, et chargeaient de porcelaine, de verreries, de mirlitons, de bâtons, de sucre, de pommes, de pain d'épices et de macarons. Ils entrèrent pourtant dans la baraque des figures de cire, où ils virent le corps de Monseigneur Cibourg exposé dans la chapelle ardente de l'archevêché, l'exécution de Marie-Histoire, des membres atteints de différentes maladies hideuses et une géorgienne sortant du bain. Un écriteau indiquait que cette géorgienne était le type le plus pur de la beauté féminine. Madame Evans l'examina avec une curiosité qui bien vite devint malveillante. On dira tout ce qu'on voudra, murmura-t-elle. Je voudrais pas pour tout au monde avoir des pieds si grands, une taille si forte. Et puis, ces figures régulières ne plaisent pas du tout. On aime mieux un visage expressif. Quand ils sortirent de la baraque, le soleil était bas et la poussière flottait en nuages d'or sur la foule des femmes, des ouvriers, des militaires. C'était l'heure du dîner. Mais en passant devant le cirque des singes, Madame Evans vit une telle queue de curieux se couler sous la draperie de toile à matelas de l'estrade qu'elle ne put résister à la force de l'exemple. Du reste, une curiosité la tirait vers les singes qu'on lui avait dit sensibles à la beauté des femmes. Mais le spectacle lui détourna ses idées. Elle vit un caniche en pantalon rouge, fusillé comme déserteur malgré sa mine honnête. Les larmes lui en vinrent aux yeux, tant elle était sensible aux illusions du théâtre. « C'est pourtant vrai, dit-elle le cœur gros. On a vu des pauvres militaires fusillés pour avoir couru sans permission au lit de mort de leur mère, ou pour avoir souffleté un officier insolent. » Quelques vieilles chansons de Béranger, entendues chez des ouvriers, dans son enfance plébéienne, lui remontaient à la mémoire et ajoutaient à son attendrissement. Elle raconta la lamentable histoire du chien condamné et rendit les deux enfants tout tristes. Mais au pied même du cirque, un marchand de mirlitons, coiffé d'un casque de papier, les fit éclater de rire. Il fallait songer à dîner. Elle savait une auberge au bord de la Seine où l'on pourrait manger une friture sous la tonnelle. Ils y allèrent. La Parisienne et la cabaretière se saluèrent d'un clignement d'œil. Il y avait longtemps que celle-ci n'avait vu madame. Elle ne connaissait pas les deux petits messieurs, mais ils étaient tout de même bien mignons. Madame Evans commanda le repas comme eût fait un connaisseur, savamment et dans l'argot des restaurants. Elle, son chapeau débridé, eux, le dos contre la treille, ils savouraient en silence leur lassitude délicieuse. Ils voyaient la rivière et ses berges vertes à travers une arcade de vignes vierges. Leurs pensées coulaient insensiblement comme l'eau qui le regardait. L'ombre et la fraîcheur du soir vinrent les caresser mollement. C'est alors que Jean Servien, en regardant Madame Evans, éprouva pour la première fois la douceur de se sentir près d'une femme. Bientôt, échauffé par un peu de vin mêlé d'eau qu'il avait bu, il ne vit plus rien que ses rêves pleins d'images élégantes, absurdes et nobles. Et s'étant environné de ses visions, qu'il retourna à la fête où l'entraîna Madame Evans, insatiable de spectacles et de bruit. Des arcs lumineux s'élevaient à intervalles réguliers sur l'avenue bordée des chopes et le tréteau, mais les allées latérales étaient sombres et désertes sous leurs grands arbres noirs. Des couples y passaient lentement. Le bruit des musiques foraines y venait en s'adoucissant. Ils étaient là quand un orchestre de clarinettes, de trombones et d'ophicléides éclata près d'eux en jouant une polka de bal public. Dès les premières mesures, Madame Evans n'y put tenir. Elle attira Jean contre elle, lui arrangea les bras dans les siens, et d'un coup de hanche, l'élevant de terre, se mit à danser avec lui. Elle se balançait au rythme de la musique, mais lui, gauche et troublé, ne s'enlevait pas. Il la retardait et la heurtait. Elle se détacha brusquement de lui et dit avec une impatience sèche : « Mais vous ne savez pas danser. Viens, Edgar !» Elle fit dans l'ombre quelque temps de danse avec lui, puis, rose et souriante, « Ah, la bonne heure !» dit-elle. Servien, sentant son impuissance, était devenu sombre. Une colère sourde lui montait au cœur. Il souffrait, et il se sentait un besoin de haïr. Le retour en fiacre fut silencieux. Jean se rompait les jambes pour ne pas frôler les genoux de Madame Evans, qui sommeillait au fond de la voiture. Elle le laissa descendre devant sa porte, sans se réveiller tout à fait pour lui dire « Adieu, monsieur !» En rentrant au logis, il s'aperçut pour la première fois d'une odeur de colle qui lui sembla insupportable. La chambre où il avait longtemps dormi heureux et aimé lui parut misérable. Il s'assit sur son lit et regarda avec une tristesse amère le bénitier de porcelaine dorée, l'estampe commémorative de sa première communion, la cuvette posée sur la commode et dans les angles des piles de carton et de papier verni pour reliure. Tout ce qui l'entourait lui semblait animé contre lui d'un esprit méchant et injuste. Il entendait, de la pièce voisine, son père qui ronflait. Il se le figura, son établi, avec son tablier de serge, tranquille, content. Quelle honte ! Et pour la seconde fois dans un tour de cadran, il rougit de son père. Ses songes furent pesants. Il rêva qu'il tournait indéfiniment dans des appareils compliqués, sans pouvoir éviter de toucher le genou de Madame Evans, malgré la peur qu'il en avait. Il vit aussi, dans un champ, d'innombrables cochons de marbre élevés sur des socles de pierre, et M. Delbecq se promenant lentement au milieu de ces troupeaux inanimés.